Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Stephen Elsley.
Bonjour, bonsoir. C'est une ode pleine de lumière et de spiritualité. Une ode à l'espoir, à l'élévation, à la positivité que vient nous présenter aujourd'hui notre invitée. Une artiste d'origine capverdienne qui a grandi en France et qui porte en étendard un reggae roots qui navigue entre plusieurs continents, de la région parisienne à New York, en passant bien sûr par la Jamaïque et l'Afrique. Née sur l'île de Santiago, cette chanteuse et musicienne autodidacte vient de sortir son 5e album, 11 titres solaires et plein d'amour, 10 en anglais, 1 en créole capverdien. Shine, le nouvel album de Mokel Amity est disponible chez Sofiatea Records et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, ça fait du bien ce morceau, hein, disons-le très clairement. C'est un morceau qui s'intitule donc Got to Get Away, c'est le morceau qui nous fait entrer dans ce nouvel album. En français on peut traduire par je dois y aller, je dois m'enfuir, je dois trouver une nouvelle respiration. Vous aviez besoin de changer d'air?
Oui, c'était pour moi primordial pour pouvoir nourrir cet album de nouvelles vibrations, de nouvelles choses.
Qu'est-ce que vous vouliez fuir?
Cet album, cette chanson m'a été inspirée juste après ou pendant le confinement. Donc il y avait vraiment cette sensation d'oppression. Le fait qu'on soit enfermé, qu'on ne puisse plus s'exprimer sur scène. J'avais vraiment envie, dès que les frontières se sont réouvertes, de partir pour pouvoir m'inspirer d'autres choses.
Alors où êtes-vous parti?
Je suis partie à New York.
Pourquoi New York?
New York parce que c'est tout d'abord une ville qui m'a toujours fait rêver.
C'était la première fois ?
C'était la première fois, tout à fait. C'était vraiment mon premier séjour de longue durée sur le sol américain. Et New York, c'est vraiment une ville qui foisonne, c'est une ville qui bouillonne de plein de choses, de plein de cultures, et qui a aussi une histoire propre. Donc, au travers de cette histoire et de cette musicalité qu'il peut y avoir dans cette ville, je me suis dit, allez.
Et donc vous avez fait, j'imagine, pas mal de rencontres musicales, notamment. Il y a de jolis noms là sur l'album.
Tout à fait. J'ai vraiment eu de belles opportunités. J'ai rencontré des légendes, des pionniers du reggae.
Donc, allez-y, citez-les.
Alors, tout d'abord, Sidney Mills.
Voilà.
Les Steel Pulse, avec qui j'ai co-réalisé cet album. Ensuite, Andy Basford, qui a travaillé avec Dennis Brand. Voilà, pas mal d'artistes, Rupert McKenzie et puis Carl Wright. Donc ça, c'était l'équipe à New York.
Voilà, il y a aussi sur le disque Dennis Thompson. Alors Dennis Thompson, c'est pas n'importe qui non plus, mon Calamity.
Tout à fait. Dennis Thompson, c'est vraiment incroyable que cette rencontre, vraiment, elle a été magique.
Un son de Bob Marley.
De Bob Marley, voilà. Il était avec lui sur la route, il a mixé certains de ses albums, il a accompagné aussi Alicia Keys.
Voilà, donc un album enregistré entre l'Europe, entre l'Amérique continentale, New York, et la Jamaïque, forcément.
Forcément. Après cette première aventure, One Love Vibration, j'ai eu cette grande chance et l'opportunité d'enregistrer avec Sly & Robby et The Taxi Gang. Donc j'avais vraiment cette envie de retourner là-bas pour pouvoir... de nouveau réenregistré avec Robbie Lynn au clavier et puis Earl Shanae Smith, Flabba Olds. Voilà, je pense que tous ces musiciens, vous les connaissez parce qu'ils font vraiment partie de la création et ce sont vraiment les pionniers, les légendes du reggae.
C'est ce titre qui donne son nom à ce cinquième album, Mokalamity, un titre empreint de spiritualité qui nous incite à illuminer notre vision, notre manière de vivre. La foi qui vous anime, Mokalamity, c'est une foi en jazz, c'est une foi en Dieu ou c'est une foi en l'être humain ?
C'est une foi en Dieu, en jazz et à cette unité qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment... une chanson très spirituelle. Je puise énormément ma force dans ma spiritualité et dans mon mode de vie. Et c'est une chanson voilà, qui donne de l'espoir, enfin, j'espère, voilà, qui illumine, pour illuminer nos chemins et qui nous donne de l'espoir.
C'est vrai que la spiritualité a toujours eu une place importante dans votre vie, visiblement, mais aussi dans vos textes en tant qu'artiste. Comment avez-vous rencontré le rastafarisme ?
Je l'ai rencontré au cours de mon adolescence, et je viens d'une famille chrétienne. Donc cette question de la spiritualité et de la religion m'a toujours accompagnée. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours prié depuis que je suis enfant. Donc ça fait vraiment partie de ma personne et de la manière dont je me suis aussi construite et à ce que je donne de la valeur. Voilà, cette spiritualité, elle me porte dans mes textes et dans l'énergie que je peux avoir pour mener ce chemin.
Mais vous êtes allé en Éthiopie, hein, je crois, Mokalamiti. Vous avez gardé quoi de ce passage dans ce pays si important pour la foi, justement, pour cette spiritualité ?
J'en garde un souvenir extraordinaire. C'est un pays magnifique avec différentes régions. Et je voulais aussi aller là-bas parce que c'est l'origine de notre monde, c'est l'origine de l'humanité. Et... j'avais besoin de capter ce qui se passait sur cette terre en Éthiopie.
Alors Shine, c'est donc le titre de ce nouvel album. Sur la cover, c'est vous qui brillez, le soleil c'est vous, hein. Il y a les rayons comme ça tout autour de votre visage qui se trouvent au centre de la photo. Mais pourquoi avez-vous choisi de fermer les yeux, Mokalamiti ? Ça fait référence à la méditation qu'on évoquait il y a un instant.
Oui, tout à fait, c'est cette force... Il est important pour moi déjà de briller de l'intérieur pour pouvoir voilà, envoyer cette lumière à l'extérieur. Donc c'est vraiment cet esprit de paix, de quête de paix et d'envoyer voilà, cette énergie qui est au fond de nous et qu'on ne peut pas percevoir. Cette énergie, l'amour, c'est au fond de nous. Donc dans cette chanson, Shine, il y a une phrase où je le dis, c'est... Cette lumière venant de Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, elle se trouve d'abord en nous.
Donc c'est-à-dire que le premier pas dans l'écriture, dans la composition d'un morceau, c'est un pas individuel, c'est un pas solitaire avant justement de partager ça avec des musiciens ou un public ?
Oui, pour moi ça, c'est vraiment une introspection, que ça soit dans la recherche de mes mots, et aussi lorsque je compose un titre, lorsque les mélodies elles me viennent. Et ensuite, je partage avec les musiciens et les arrangeurs.
Et inversement, est-ce qu'on peut dire que la musique vous apaise aussi ?
La musique m'apaise énormément.
Vous avez besoin de musique pour pouvoir rentrer justement dans cette phase de méditation et donc de création ?
Oui, je passe du temps à jouer, à chanter. Et puis tout d'un coup, je sais que c'est une chanson qu'il va falloir que je travaille et que je mette sur un album.
Alors vous avez appris la musique sur le tas, en parfait autodidacte. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un déclic ? C'est une histoire de rencontre aussi ?
Alors la musique, le chant, c'est arrivé vraiment progressivement. Quand j'étais enfant, j'étais une véritable éponge. Je retenais toutes les mélodies, tout ce qui passait à la radio. Et puis je me suis mise à chanter comme ça naturellement. Et mes amis ont été... voilà, les premiers qui m'ont sollicité, ils m'ont demandé « Tu veux pas chanter ? C'est génial, quand tu chantes, t'as quelque chose. » Donc j'ai pris conscience petit à petit de ce don. Voilà, pour moi, c'était naturel.
Et du pouvoir de votre voix.
Oui, oui, ça a été d'abord sur mes amis et les personnes qui m'entouraient.
Alors je crois que le premier texte que vous avez écrit s'intitulait « Africa ». C'était un cri de nostalgie, un moyen d'ancrer ça dans une histoire, dans votre passé de fille issue d'un pays où vous n'habitiez plus ?
Oui, c'est ça. C'était vraiment ce regard et puis cette envie de traduire ce sentiment qu'il y a au Cap-Vert, cette saudade vis-à-vis du continent africain, ayant grandi en France. Donc cette quête en fait de mon identité, mon rapport aussi à la musique reggae et au rastafarisme, voilà, ça vient aussi de cette quête et ça commence avec cette chanson.
Et le mot Africa figure aussi au début du titre qui vous a fait connaître au public le plus large, votre duo avec Tika Jafakoli, Le Pouvoir. Ça, c'est une règle immuable dans l'émission Mot Calamity. Dès qu'il y a une occasion de faire un petit clin d'œil à Tiken, on ne se gêne pas, on y va, hein, parce que c'est beaucoup trop tentant. Ce duo, c'était en 2018, mais vous étiez déjà rencontrés quelques temps auparavant.
Hein. Oui, notre première rencontre, c'était à l'occasion du Abbey Reggae Festival en Côte d'Ivoire.
En 2016, c'est ça ?
Tout à fait.
Ça reste une référence aujourd'hui pour vous, Tiken ?
Oui. Oui, ça reste une référence parce que non seulement dans la musique, parce que j'affectionne ce côté reggae roots avec toutes ces sonorités du continent, ses textes, excusez-moi, et ainsi que ses convictions, voilà, qui pour moi, ça me parle et je rejoins complètement dans ce qu'il défend et dans ce qu'il défend par rapport au continent africain. Voilà, vraiment, ça reste un grand porte-parole.
Mundo Mokalemiti, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Alors c'est la cinquième piste de ce nouvel album Shine. C'est la seule qui n'est pas en anglais, mais en créole du Cap-Vert. Pourquoi cette exception, Mokalemiti ?
Parce qu'elle m'est venue ainsi, la chanson. Je ne pouvais pas faire autrement que de la chanter dans cette sonorité et en capverdien.
Et comment elle vous est venue ? Il y a une raison particulière ?
C'est surtout ce sentiment que j'avais envie de... Ce que je pense au fond de moi, pour pouvoir changer les choses et ce monde... Ça vient tout d'abord de comment on nourrit notre cœur pour pouvoir impacter sur notre société, voilà, dans nos communautés. Et elle m'est venue ainsi et j'avais vraiment envie de la chanter.
Alors, ce n'est pas la première fois que vous chantez en créole, mais c'est quand même assez rare. Hein. Vous privilégiez l'anglais ?
Oui, je privilégie.
C'est évident de chanter d'abord en anglais quand on fait du reggae ?
En tout cas, je ne me pose pas trop de questions lorsque je compose. Et il est vrai que ça m'arrive plus souvent en anglais. Mais je pense que c'est parce que c'est une langue plus malléable et qu'il y a différentes sonorités dans cette langue qui me permettent d'explorer les idées. j'ai ou de ce que je ressens. Donc je privilégie l'anglais juste pour ces raisons-là, même si je trouve que le français est vraiment une belle langue et on peut exprimer encore plus de choses, mais elle est plus difficile à faire.
Mais vous excluez pas de chanter en français
Du tout.
Du tout, voilà. Non, non. Bon, le créole capverdien quand même, parce que ça m'intrigue. Vous êtes arrivé en France à 5 ans et demi après un bref petit détour par le Portugal, hein, je crois que c'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
Donc vous êtes arrivé quand même en Europe extrêmement jeune. Cette langue maternelle, ce créole capverdien-là, vous l'avez toujours pratiqué ou il a fallu que vous la retrouviez ?
Il a fallu que je la retrouve parce que j'ai ma première langue maternelle donc, qui est le portugais et le créole capverdien donc, qui était parlé dans ma famille. Et voilà, et vivant en France, je n'ai pas l'occasion de pouvoir la pratiquer. Donc j'ai dû à un moment donné, au fur et à mesure de mes voyages et de mon retour au Cap-Vert, me réapproprier à cette langue.
Alors, le premier morceau en créole capverdien, c'était en 2013 avec votre groupe The Wizard sur l'album Freedom of the Soul. C'était en 2013 et je conseille évidemment à nos auditeurs d'aller sur internet visionner le clip parce que le clip est absolument magnifique. Il commence à l'arrivée à l'aéroport Cesaria Évora de Praia.
Exactement.
Votre Cap-Vert à vous, Mokalamiti, c'est l'île de Santiago. Hein, c'est l'île qui abrite justement la capitale, Praia. C'est la plus grande, je crois, des 10 îles de l'archipel. On dit aussi que c'est son île la plus africaine. C'est quoi pour vous l'identité africaine ?
Pour moi, l'identité africaine, c'est vrai que le Cap-Vert est au milieu un peu de l'océan. C'est un peu le carrefour du monde, c'est très lunaire. Et voilà, pour moi, cette identité africaine, elle a été transmise par nos ancêtres, par toute cette population qui a été amenée au Cap-Vert, due à son histoire. L'identité africaine, elle va se traduire dans les traditions et dans la musique et dans les valeurs auxquelles on est attaché.
Et donc, il y a d'ailleurs un morceau sur ce nouvel album qui s'appelle African Descendants. Ouais. Cette identité africaine-là, on la retrouve évidemment sur le continent, mais on la retrouve aussi à New York et en Jamaïque.
On la retrouve partout. On retrouve les Africains partout dans le monde. Et quand je suis arrivé à New York, j'ai vu ce quartier à Harlem, où c'est un quartier, on va dire, africain. Chaque quartier, voilà, il y a les quartiers chinois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, on a tous la même manière de vivre ou les mêmes habitudes, peu importe où on est au final.
Et ça veut dire que vous vous êtes senti chez vous en arrivant à Harlem ?
Oui, oui, oui. J'ai eu un sentiment de qu'est-ce qui se passe ? Je connais pas, mais je connais. Donc et puis au travers aussi de non seulement la population et puis cette musique qui est présente partout à New York.
Babylon built its empire. difference if you're black or you're white. Injustice is a thing make we can't unite. The government that keeps you out, vampire bite. The only way to stop them is to vote them out. Paralyze politicians, make them shut up their mouth. I make the people know so that they run the wrong. In the north, the east and the west and the south.
Time has come now, we need more justice.
Stand up, notre invité Mo Calamity featuring Sister Carole dans VMDN sur RFI. Sister Carole, la Black Cinderella, la Cendrillon noire, hein, comme on dit, en Jamaïque, grand nom de la scène dancehall jamaïcaine. Comment est né votre duo Mo Calamity?
Alors, elle habite à New York, et, tout à fait, et elle connaît donc Sidney Mills, voilà, tout ce petit crew à New York. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'inviter sur mon album. J'aime énormément son énergie, ce qu'elle dégage. Et c'est une des premières artistes féminines que j'ai écoutées aussi.
Ouais, donc, et ça fonctionne très très bien. Donc un vrai duo féminin. D'ailleurs, vous avez toujours porté la voix des femmes. Hein. Bo Calamity, stand-up, il faut se lever, hein, il faut y aller, il faut s'imposer. Aussi, votre nom d'artiste d'ailleurs, faire évidemment référence à Calamity Jane. Pourquoi avez-vous pensé à elle? Pourquoi avez-vous placé votre carrière sous cette figure tutélaire là?
Tout à fait. Je n'avais peut-être pas conscience au moment où j'ai choisi mon nom.
Oui, à l'époque. Ça a dû venir très vite quand même.
Non, mais en fait, c'est vraiment voilà, cet esprit Calamity Jane qui est dans le western, avec son fusil, mais toujours avec cette fleur dans la bouche. Donc j'évolue dans un milieu plutôt masculin, où les choses ne sont pas forcément faciles, hein, dans la musique. Voilà, c'était une petite référence à ça, mais aussi à mon vrai prénom. Donc je m'appelle Monica, donc c'est le début de Mo et la fin de K. Et puis dans un troisième degré, accordé à ma spiritualité, j'espère être une bonne calamité pour l'humanité.
Ah oui, d'accord, ah, c'est pas mal. En plus, ça rime, vous voyez. Comme quoi, décidément, la musicalité jusqu'au bout. Alors, justement, bon, donc Stand Up, hein, ce titre, sur l'album précédent, l'album One Love Vibration qu'on a évoqué il y a un instant, il y avait un autre titre, Strength of a Woman, donc la force d'une femme, donc avec aussi ces mots Don't Give Up. Donc là aussi, on est vraiment dans le fight, dans la battle, dans la détermination en tout cas. Donc Don't Give Up, ne laisse pas tomber, qui revenait comme ça, un peu comme un leitmotiv tout au long du morceau. Ne laisse pas tomber, c'est un mot que vous vous êtes souvent dit dans votre carrière.
Oui, ne jamais abandonner, ne jamais abandonner, toujours aller de l'avant, parce qu'on mérite d'exister et de faire autant que les hommes, et aussi au travers de ma carrière, parce que je suis convaincue, donc cette conviction me pousse toujours à aller plus loin.
Mais vous avez rencontré des obstacles qui auraient pu vous faire baisser les bras? Ça a été difficile d'avancer progressivement dans cette carrière?
En fait, je suis une artiste indépendante en autoproduction. Donc forcément, ça demande plus d'efforts et puis une différente organisation. Et c'est en ça qu'il ne faut pas se décourager. Mais on trouve toujours les solutions. Et puis le but, c'est de pouvoir partager la musique. Donc quand on arrive à ça, ça nous encourage encore plus.
Mais les femmes, aujourd'hui, ont toute leur place dans le monde du reggae?
Oui, tout à fait.
Ça a changé ou bien ça a toujours été ainsi depuis que vous faites ce métier?
Ça s'améliore. Il y a énormément de progrès. Et je pense qu'à présent, les femmes sont plus visibles. On diffuse un peu plus notre musique. Sur des festivals, on aimerait encore voir plus d'artistes féminines et non pas que des affiches avec des hommes. Parce qu'on fait partie de la population, donc il est évident de pouvoir partager et de proposer autant d'hommes que de femmes.
Oui, très naturellement, quoi. Ça va de soi, quoi. C'est presque bête de poser la question, si je vous entends bien.
Non, en fait, ça serait bien que ça soit dans cet esprit-là. Il faut encore lutter et s'imposer, mais c'est en bonne voie.
Oui, parce que vous avez aussi, effectivement, dans cet album, ce côté un peu militant. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une apôtre de ce qu'on pourrait appeler l'afroféminisme?
Oui, si vous pouvez me mettre dans cette vous pouvez me mettre dans pas dans cette case, mais en tout cas oui, au final, par rapport à mes convictions et ce que je défends et ce que je suis évidemment.
Merci, merci beaucoup Mokalamiti d'être passé nous voir dans VMDN sur RFI. L'album Shine est disponible, je le rappelle, chez Sophia Théa Records. Et puis vous serez en concert. Alors là, sacrée tournée hein, pour le coup. Là, vraiment, c'est impressionnant. Ça commence d'ailleurs dans deux jours, hein, ce samedi 13 avril, à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne. On est en banlieue parisienne. Le 27 avril, grande date parisienne à Paris au Cabaret Sauvage. C'est une de salles que vous connaissez ?
Oui, j'ai déjà eu l'occasion de jouer dans cette salle. La dernière fois, c'était avec Queen Africa. On a partagé le plateau. Je suis vraiment ravi de pouvoir fêter, célébrer cet album dans cette salle.
Voilà, hâte de vous voir à ce moment-là. Vous serez aussi le 24 mai à Vauréal, dans le Val-d'Oise, toujours en région parisienne, le 31 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, mais aussi le 15 juin à Entraigues, dans le sud-ouest de la France, le 5 juillet au Festival Herva d'Anneyron. Alors, Anneyron, Baptiste Antoine doit savoir où c'est, parce que c'est pas très loin de ses terres à lui, c'est dans la vallée du Rhône. Et le lendemain à Bordes, dans les Pyrénées, puis le 12 juillet à Genève, au Festival plein les Watts, la Suisse y connaît aussi un tout petit peu. Et puis, votre tournée Mokalamiti, elle continue au mois d'août au Forestival, dans le département de la Loire, le 22 à Eclos, en Belgique. C'est bien d'aller voir les voisins de temps en temps. Mmh. Et puis, le 24 à Saint-Brieuc, en Bretagne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Which kind of life way I never see? I carry God, so I fear nothing. Steady increase in the commas, comma, comma, comma. Original no be parody. You know fit clear for your memory. Whether now winter or summer, I did Papa does travel now. Living life, see my fire burning bright within day inside me. Smally way day, my feet they never know I color.
Saïra Star, un titre de la playlist RFI dans VMDN à Paris. La galerie du jour Agnès B dans le 13e arrondissement de la capitale française accueille actuellement l'exposition Sculptures for the Day du photographe nigérian Jide Okai Ojekere. C'est sa première exposition personnelle après plusieurs expositions collectives aux côtés d'autres grands noms de l'art contemporain africain. Elle est axée autour de l'art de la coiffure nigériane. Le reportage de Lisa Giroldi.
Avec l'arrivée massive des perruques au Nigeria dans les années 1950, Jide Okai Ojekere veut immortaliser en photo toute la richesse du savoir-faire des coiffures des femmes nigérianes. L'exposition Sculpture for a Day présente d'abord sa série Hairstyles de 1968. Commencée en tant que véritable projet ethnographique, elle évolue ensuite en recherche purement artistique. mais Chaumantin de la Galerie du Jour Agnès B.
Grâce à une coiffure, on peut identifier à quelle étape de sa vie est une femme. Si c'est une jeune fille, si c'est une femme mariée, si c'est une veuve. C'est vraiment un marqueur de culturel, de structure sociale du pays.
Jideo Keodjekere photographie des femmes qu'il croise dans la rue, au bureau ou encore dans des fêtes. L'une des coiffures est typique des femmes de la haute société, une autre est portée par la divinité Oba des traditions religieuses d'Afrique de l'Ouest, une autre encore est en honneur de la déesse de l'eau.
Il y a des coiffures qui sont beaucoup plus quotidiennes, qui elles sont destinées aux jeunes filles par exemple celle-ci là. C'est une coiffure que les jeunes filles portent quand elles vont à la salle d'engraissement, salle dans laquelle elles sont pesées, nues, où on les observe pour savoir si elles sont fécondes et fertiles, prêtes à être mariées. On peut savoir justement par sa coiffure que cette jeune fille est à cette étape-là de sa vie.
Tresses, cheveux divisés en zigzag, ornés de perles ou bien remontés au-dessus du crâne, ces coiffures éphémères n'étaient portées qu'un seul jour, alors que certaines demandaient parfois plus d'une semaine de travail. Et le photographe nigérian procède toujours de la même manière, assez répétitive. Les photographies sont toujours en noir et blanc, sur un fond neutre, avec un cadrage assez serré et une lumière plutôt douce. Le rendu final révèle la géométrie et la précision de ces coiffures sur des photographies presque abstraites.
Il prenait souvent quatre clichés d'une même coiffure, deux de profil, une de face et une de dos. Mais c'est plus souvent celles de dos qui reviennent car elles sont le plus représentatives de la coiffure. Et puis c'est aussi le rendu le plus sculptural, le plus neutre. Et en fait, on s'attarde vraiment sur le cheveu, sur la coiffure, sur la manière dont ça a été fait. Sur le visage de cette femme.
Quelque chose relève même du cinéma en entrant dans la galerie. Les clichés au fond noir sont alignés d'un côté face aux clichés au fond blanc. Le rendu donne un effet filmographique comme le déroulé d'une pellicule de coiffure, tout encadré au même format. Sculpture for a Day présente en tout 25 photographies, petit échantillon du projet bien plus vaste de l'artiste.
Pour répertorier un peu toutes ces coiffures, il va tenir très minutieusement ce qu'il va appeler son green book. Dans ce green book, il y a plus de 1000 clichés de cette série Hairstyle, c'est quand même une série qui est très 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 foisonnante. Et ce travail là de coiffure, c'était vraiment une recherche tripartite de la beauté avec donc la coiffeuse qui elle avait le savoir-faire, sculptait le cheveu de son modèle qui est la deuxième personne, et Odjekere qui lui immortalisait en photographiant cette coiffure.
Après la série Hairstyles, fruit de 30 années de travail pour Jideo Keodjekere, Sculpture for a Day présente une autre série moins connue, Headdress, débutée dans les années 2000. Celle-ci s'attarde sur les coiffes et sur l'art des sculptures de tissu. Elle met en valeur l'habileté artistique et l'esthétique de l'arrangement manuel des étoffes. À travers ses photographies, Jideo Keodjekere transcende la simple mode pour élever la coiffure au rang d'art, célébrer ses motifs complexes et sa dimension sculpturale. Son œuvre constitue un patrimoine culturel à la fois anthropologique, ethnographique et documentaire. Un véritable hymne à la beauté éphémère de la coiffure nigériane.
Reportage de Lisa Giroldini pour VMDN, c'est jeudi, jour de café polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Un café polar en blanc et bleu aujourd'hui, un café polar aux couleurs du Québec. Bonjour Catherine Cruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Et oui, puisque c'est le Québec qui est l'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris qui ouvre ses portes demain et qui se tient jusqu'à dimanche au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais éphémère. Une quarantaine d'écrivains de la belle province ont fait le déplacement et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler, Catherine, du nouveau livre d'André Marois, La Sainte Paix, aux éditions Héliotrope.
André Marois, qui est le plus québécois des Français, car s'il vit au Canada depuis plus de 30 ans, il est bien né près de Paris. Toutefois, son univers littéraire est imprégné du Québec. On peut même dire que c'est cet endroit qui a révélé en lui sa vocation d'écrivain. En tout cas, c'est ce qu'il m'a confié quand je l'ai rencontré à Montréal. André Marois.
Absolument, j'avais écrit peut-être deux nouvelles et demie en France, mais c'est tout. Et donc oui, c'est vraiment le Québec qui m'a inspiré, le fait d'arriver avec un regard étranger. Donc c'est certain que d'arriver avec ce regard de Français, de Parisien qui débarque à Montréal dans les tempêtes de neige, tout d'un coup on s'intéresse à toutes ces petites choses qui nous entourent. Et puis à partir de là, moi j'aime bien les histoires de meurtre, et donc... je schématise, mais donc à partir de là, de comment utiliser ce quotidien, on va dire, pour raconter une histoire, pour plonger dans la noirceur avec ce décalage de l'étranger fraîchement arrivé.
André Marois, devenu écrivain grâce au Québec. Donc, à ce jour, tous les polars qu'il a publiés s'y déroulent, Catherine ?
Presque. Il est l'auteur de 5 livres, dont une trilogie vraiment policière. Il y a d'abord eu Bienvenue à Meurtreville en 2016, puis Irrécupérable en 2021, suivi aujourd'hui de La Sainte Paix. C'est un roman noir qui, comme les précédents, ne manque pas de piquant, pour ne pas dire d'humour noir, avec une intrigue un peu décalée, mais très efficace. André Marois nous présente cette nouvelle fiction.
La Sainte Paix, c'est l'histoire de deux voisines qui habitent chacune d'un côté d'une rivière qui s'appelle la Mastigouche. Ça fait 30 ans qu'elles sont voisines. Et un jour, il y en a une des deux qui annonce à son amie, pas vraiment amie, mais bon, qu'elle est malade et donc elle va vendre sa maison, elle va partir à Ottawa près de son fils. Et donc la première, qui s'appelle Jacqueline, pense que c'est une catastrophe. La Sainte Paix dont elle jouit dans ce paysage extraordinaire, elle va la perdre parce que d'autres personnes vont arriver avec toutes les horreurs que ça peut occasionner, la musique, le bruit, les enfants, les Airbnb, les barbecues, etc. Et elle se dit comment préserver ma sainte paix, et donc elle décide de supprimer sa voisine, mais d'une façon très très particulière, assez horrible. Et donc tout le roman est vraiment construit sur, on sait qui est la coupable, on connaît sa motivation, mais on va découvrir son modus operandi petit à petit, puis surtout on va se poser la question, est-ce qu'elle va y arriver, parce que c'est quand même pas évident ce qu'elle a imaginé de faire à sa voisine.
Voilà, une mamie flingueuse, autrement dit, Catherine, un personnage de meurtrière auquel on s'attend pas toujours, hein, même s'il y en a quand même quelques-unes dans l'histoire du crime. C'est vrai qu'on s'y attend pas, hein, ce genre de personnage de meurtrière dans un petit village qui a l'air bien tranquille d'ailleurs. Est-ce que c'est inspiré d'un lieu en particulier du Québec ?
Oui, et c'est vrai que dans ce magnifique cadre naturel et champêtre où il y a des prairies et des rivières à perte de vue, on n'imagine pas que la violence puisse surgir au coin d'un bosquet. Et pourtant, détail avec André Marois qui connaît bien la région.
Alors ça se passe dans un village qui existe, qui s'appelle Mandeville, qui est dans une région qui s'appelle Lanaudière, qui est à peu près à 1h30, 2h de Montréal. Et donc c'est un endroit où nous avons un chalet depuis une dizaine d'années, donc je connais bien.
Et là-bas aussi, il y a des meurtres ?
Non, il n'y a pas des meurtres, mais c'est quand même un village intéressant parce que c'est un village très étendu. Le territoire est grand comme la ville de Paris, donc c'est très grand. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de vivre tranquille, sans que personne vienne s'occuper de leurs affaires. Ils n'aiment pas la police, c'est clair. Ils font ce qu'ils veulent. On entend régulièrement des coups de feu. Ils se déplacent partout comme ils veulent. Et puis si on leur fait des petits commentaires, ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent « on est chez nous ».
Donc il y a une atmosphère déjà presque inquiétante, en tout cas très littéraire, très romanesque.
Ah, tout à fait. Puis moi, nous, avec ma blonde, débarquant là, on sait très bien que nous sommes des étrangers, hein, on est des saisonniers, comme ils disent. On n'habite pas là, on n'est pas originaire de là, donc à nous de nous intégrer, on va dire. Mais c'est pour moi une source d'inspiration merveilleuse.
Bon, à l'entendre, on a l'impression qu'André Marois est bien intégré au Québec, hein, puisqu'il utilise des expressions typiques de la belle province comme « ma blonde », ce qui signifie « ma compagne »,« ma femme », »,« ma petite amie ». C'est le cas aussi dans son écriture, Catherine ?
Alors, c'est un doux mélange, en fait. Bien sûr, il y a un ton qui colle au parler québécois, mais l'écrivain n'a pas oublié ses racines et de fait, sa langue est nourrie des deux cultures, des deux continents. André Marois.
Écrire québécois, oui, bien sûr, mais c'est tout un défi. Parce que c'est sûr, moi, j'arrive de Paris, donc je suis arrivé avec mon langage, mon argot, mes expressions, mais mes livres se passent ici. Alors, il y a plusieurs niveaux. Tout ce qui est dialogue, bien sûr, pour que ça soit crédible, il faut que ça sonne juste. Ça fait quand même longtemps que je vis ici, donc je sais quand même, je connais les expressions et le vocabulaire et tout ça, mais bon. Et puis la narration, c'est sûr que c'est très québécois, on va dire, dans la langue française, mais pour ce livre, je me suis vraiment fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des lecteurs qui me disent « Ouais, on sent par moment, on sait que t'es français, parce qu'il va y avoir une petite expression qui est qui n'est pas pure laine, comme on va dire, mais j'ai décidé d'assumer. Parce que qui suis-je ? Je suis un Français installé au Québec depuis 30 ans. Et puis c'est ça qui fait que je suis devenu cet écrivain. Et donc, autant y aller à fond. Donc, je me suis vraiment fait plaisir au niveau de l'écriture. Donc oui, c'est très ancré dans la québécitude, mais je suis né à Créteil.
Voilà, Créteil, c'est évidemment tout près de Paris, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. André Marois, qui est donc dans la capitale française en ce moment, avec cette délégation du Québec, invité d'honneur au Salon du Livre de Paris. Ce sera peut-être l'occasion pour lui de se faire mieux connaître du public français.
En fait, la maison d'édition québécoise où André Marois est publié, Héliotrope, est depuis quelques semaines distribuée en France. Donc les livres seront plus facilement accessibles et visibles en librairie. Mais de toute façon, André Marois avait déjà eu la chance que ses deux romans précédents soient achetés par une maison française. Explication.
Oui, les deux premiers romans de la trilogie, donc Bienvenue à Meurtreville et Irrécupérable, ont été republiés en France par Le Mot et le Reste, un éditeur marseillais. Donc le tout premier, Meurtreville, a eu une très très bonne réception. Et donc j'ai un début de lectorat en France. Et les droits ont été achetés en France pour faire un film qui est en cours de production. J'ai lu le scénario, la distribution a été... Les têtes d'affiche sont signées. Là, c'est Jean-Paul Rouve et Isabelle Carré. Et donc, c'est un long montage, on le sait, faire des films. Donc, on s'est écrit il n'y a pas longtemps avec la productrice. Ils pensent tourner ça à l'automne prochain. Ça se passe à l'automne.
Voilà, le rendez-vous est pris pour peut-être découvrir l'œuvre d'André Marois sur le grand écran. Mais en attendant à lire La Sainte Paix, son nouveau roman aux éditions Héliotrope. Et si vous êtes à Paris, l'écrivain est en dédicace et en rencontre tout le week-end au Salon du Livre de Paris qui se tient de vendredi à dimanche au Palais éphémère au pied de la Tour Eiffel.
Et on ne va pas quitter le Québec très longtemps, puisque demain, dans Littérature sans frontières, Catherine, vous recevez un autre invité de cette délégation québécoise.
Oui, Akoch Verbotchi, installé à Montréal depuis ses 11 ans et qui, avec son premier roman intitulé « La maison de mon père » aux éditions Le Bruit du Monde, se souvient de son enfance en Hongrie. Et c'est un auteur qui, je le précise, a choisi d'écrire en langue française.
Eh bien, quant à nous, on va aussi nous tourner vers le Québec à travers la poésie d'Hélène Dorion, que vous connaissez évidemment, hein, Catherine. Son livre « Les forêts » paru aux éditions Bruno Doucet est au programme cette année du bac de français. Il y a donc quelques lycéens et lycéennes qui sont peut-être en train justement de s'y plonger pour préparer leur épreuve. Et Hélène Dorion sait, comme personne, partager et faire partager l'essence en un seul mot et l'essence en deux mots de la nature. Elle s'émerveille, elle réfléchit aussi au contact des arbres et de la faune sylvestre. Petite balade en forêt donc demain en compagnie d'Hélène Dorion dans VMDN. Tout de suite le retour de l'info avec le journal en français facile. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.